une création.
Blast.
Pagaille, un podcast de Blast. Un micro pour entendre ce qui se passe dans nos territoires.
Il se passe quoi ? Il se passe quoi ?
Il se passe quoi ? À Lyon. Épisode 21. Pas des rétros, les fachos. Petite radiographie de la lutte contre l'extrême droite à Lyon. Par Alexandre Hérault et Vincent Deck. Dans cet épisode, nous revenons sur une décennie de lutte contre l'implantation des groupes identitaires au cœur de la ville, l'ancienne capitale des Gaules, que l'on présente souvent comme la capitale de la fachosphère et qui est encore la troisième ville de France. Mais avant de disséquer ces combats, revenons sur un fait central de cette décennie, une ratonnade, celle du 19 juillet 2019, qui aboutira à un procès exemplaire, mais qui nous éclaire aussi sur la violence de ces groupes identitaires.
Pare-brise éventré, carrosserie défoncée, ces quelques clichés témoignent de la violence de l'agression. Les faits se sont produits ici, à l'entrée du Vieux-Lyon, vers 23h30, dans la nuit de vendredi à samedi. Un couple et sa petite fille de 2 ans viennent spécialement de Villefranche pour fêter la victoire de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont alors violemment pris à partie par une vingtaine d'individus cagoulés et armés.
Juste parce qu'on avait le drapeau d'Algérie à la fenêtre, ils m'ont encerclé, ils sont venus avec des battes de baseball, ils m'ont brisé le pare-brise avant, pare-brise arrière, ils nous ont défoncé la voiture, une attaque violente, ils ont voulu me tuer quoi. Avec mon épouse, mon bébé derrière, on l'a traité de sale arabe, on va vous tuer.
Comme le montre cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux, plusieurs autres agressions à caractère raciste ont été perpétrées à Lyon cette nuit-là, des deux côtés de la Saône. Pour les élus et habitants du Vieux-Lyon, ces violences auraient été commises par plusieurs militants d'extrême droite qui sévissent depuis de nombreuses années dans le quartier.
Quand vous avez pris connaissance, maître Bertrand Sahine, de ce dossier, qu'est-ce qui vous avait immédiatement frappé dans la nature des faits ?
C'est la violence des faits, la détermination des auteurs, l'attroupement. Une bonne vingtaine, 20-25, d'un groupe de fascistes, dont un certain nombre de connus d'assez organisés, parce que tout ça n'était pas improvisé. On avait discuté au bar, on l'avait décidé, et puis on l'avait mis à exécution. Et armés, parfois se saisissant de panneaux, se trouvant sur la route, et en agressant celles et ceux qu'ils pensaient être des Algériens, un peu au hasard, avec une grande férocité. C'est ce qui m'a marqué le plus. Je défendais des femmes qui étaient, j'allais dire gentiment, sorties ce soir-là pour klaxonner un peu, faire la fête, célébrer cette victoire. Des femmes avec leurs enfants mineurs qui étaient dans la voiture et qui, en quelques secondes, se retrouvent entourés d'une horde de types vociférants, sale arabe, arabe dehors, des slogans extrêmement haineux, et donnant des coups de panneau, des coups de barre sur les pare-brises, sur les vitres, avec des victimes qui se sont trouvées totalement terrorisées. Et ces crimes racistes, ils touchent à ce qu'on est, dans notre substance, vraiment dans le profond de notre être, et se faire attaquer pour ce qu'on est, plutôt que pour ce qu'on a fait, parce qu'on n'a rien fait, c'est quelque chose qui est extrêmement impactant.
Ce qui s'est passé, j'imagine, à Lyon, le 19 juillet 2019, Samuel Thomas n'a pas échappé à vos radars à la Maison des Potes.
Ah oui, c'était une violence extrême. Un commando du GUD, enfin on va dire du bastion social de Lyon, un commando cagoulé avec des barres de fer, des matraques télescopiques, des battes de baseball. Et on était partie civile donc aux côtés des familles. Et donc on a mené ce procès donc qui a eu lieu en 2023 jusqu'à la victoire, jusqu'à la condamnation à la prison ferme d'un certain nombre d'entre eux. Et puis on a pu enquêter. Parallèlement à l'enquête de police, enquêter, nous, sur le profil, et c'est ce qu'on fait toujours, sur le profil de chacun des assaillants. Alors, il s'avère que y a à la fois un parcours dans le hooliganisme du football, et puis un parcours, on va dire, plus dans la salle de boxe, du bastion social, génération identitaire, tout ça, c'est des noms d'organisations qui sont finalement dissoutes, mais il y a donc une mouvance organisée dans des lieux, dans le Vieux Lyon. On réussit à récupérer des photos qui ont été prises par les Antifa, etc., qui nous montrent l'ensemble de l'équipe en train de faire une démonstration de force. On retrouve aussi des photos qu'ils publient sur Telegram, dans des groupes nationalistes Telegram, dans lesquels ils se montrent en tenue de combat, de boxe, en forêt, en train de faire des entraînements. Et on recoupe toutes ces informations qui permettent de faire le portrait de chacun d'entre eux, de voir que leur engagement, il a été progressif avant d'être capable de prendre une batte de baseball, d'aller avec une cagoule fracasser le pare-brise d'une voiture d'une femme qui porte un drapeau algérien. Eh bien, ils ont participé à différentes actions dans lesquelles leur radicalisation a augmenté.
Quelle a été, Maître Bertrand Sahin, la stratégie de défense devant le tribunal ?
Il appartient à la partie civile, d'abord, de faire comprendre à tous quelle a été la souffrance des victimes, qui, au travers de cette parole-là, permet de comprendre la gravité des faits et leur réalité. Voilà. Donc il appartenait aux avocats des parties civiles de faire en sorte que les parties civiles soient présentes, ce qui n'était pas simple, parce que les parties civiles n'avaient pas du tout envie de revivre ces éléments, ces événements, n'avaient pas du tout envie d'être obligées de traverser une salle d'audience qui était pleine de sympathisants aux prévenus, avec des regards parfois menaçants, donc ce sont des moments éprouvants. Et puis il fallait aussi que certaines d'entre elles aient le courage de prendre la parole pour dire ce qu'elles avaient vécu, indiquer quelle aurait été leur peur au moment de l'assaut, lorsqu'elles ont été prises dans ces véhicules. Elles ont cru mourir à ce moment-là. Est-ce qu'on allait retourner la voiture ? Est-ce qu'on allait mettre le feu à la voiture ? Est-ce qu'on allait les sortir pour les lyncher ? Voilà, c'était ça les questions du moment. Donc il fallait le dire pour que leurs sentiments soient entendus, pour dire les traumatismes qui en ont suivi, parce qu'on ne sort pas indemne de ce type de faits.
Qu'est-ce qui ne se répare pas ?
Ben, ce qui ne se répare pas, c'est se dire que une agression de cette nature, elle peut recommencer n'importe quand. Parce que si elle a lieu une fois, elle peut recommencer. Je crois que c'est essentiellement ça. C'est cette insécurité permanente qui sera un élément de la vie des victimes.
Mais il y a quand même quelque chose qui nous perturbe, c'est comment est-ce que parmi des milliers de personnes qui vont échanger des idéologies racistes entre eux, qu'est-ce qui fait que quelques-uns d'entre eux passent à l'acte ? Parce que dire « ouais, on va aller tuer des juifs, on va aller tuer des arabes », ça va être partagé par peut-être des dizaines de milliers de personnes ou des milliers de personnes, mais il n'y en a que quelques-uns qui passent à l'acte et qui vont tuer pour de vrai, qui vont fracasser pour de vrai. Et c'est pour ça qu'on cherche... Qu'est-ce qui va faire le basculement ? Qu'est-ce qui fait le basculement ? C'est l'entraînement au combat. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut démanteler les organisations qui s'entraînent au combat. Parce que là, ils préparent un passage à l'acte.
Il y a tout de même un chef. Il s'appelle Arthur De Gaulle. Il est actuellement en prison. Il a un pédigré particulier. C'est lui qui est le plus âgé. Il a 31 ans au moment des faits. Les autres n'en ont qu'une vingtaine d'années. C'est assez surprenant de voir à quel point ils sont jeunes aussi. À quoi ressemble ce chef de meute ?
Ben, il n'était pas balèze, hein. Il est quelqu'un de frêle qui avait simplement le tatouage du GUD tatoué sur l'épaule avec le rat. Il est le chef politique de l'action. C'est lui qui va rejoindre le groupe qui est réuni dans un bar pour mener cette action contre les supporters de l'Algérie. Et on a la démonstration par les caméras de surveillance du lieu que c'est quand lui, il arrive, que d'un seul coup, le groupe part au combat.
Justice
avec la deuxième et dernière journée du procès de la ratonnade de juillet 2019. 7 personnes sont jugées pour avoir attaqué des supporters de l'Algérie. Sur place, Guillemin Rosier, Maïva Komsi.
J'étais là, mais je n'ai rien fait. C'est la ligne de défense maintenue par les prévenus en ce second jour de procès. À les en croire, ils ne seraient coupables d'aucun des chefs de prévention pesant sur eux. Cela dit, les réponses qu'ils fournissent au tribunal peinent à convaincre les magistrats. À l'image des explications données par Florian ce matin, oui, il était bien au Gums Corner, ce bar de la place Carnot d'où sont parties les exactions du 19 juillet 2019. Mais c'est un hasard. J'ai vu des têtes que je connaissais. Je me suis arrêté, déclare-t-il à la présidente du tribunal. Non, la batte de baseball retrouvée chez lui ne lui appartient pas. Non, il n'a jamais rien jeté sur une quelconque voiture, contrairement à ses dépositions. Oui, il a été militant du GUD, mais ça, c'était avant. Même posture chez Raphaël, ex-militant musculeux du groupement d'extrême droite Bastion Social. Il a suivi le groupe pour ne pas passer, je cite, pour une baltringue, mais non, ce n'est pas lui qui a attaqué une voiture au fléau d'armes. Même défense, enfin, chez Arthur, présent sur les lieux, lui aussi par hasard. Chez cet ancien du FN, du GUD et du Bastion Social a notamment été retrouvé un t-shirt floqué du nombre 88 pour Heil Hitler. En résumé, tout le monde était là fortuitement sans jamais avoir agi. À voir si ces arguments permettront de leur éviter jusqu'aux 10 années de prison qu'ils encourent. Le jugement, lui, est attendu en principe dans la soirée.
Maître Bertrand Sahin, quel est le profil de ces prévenus?
Moi, je vois un profil type de ce type de militants et d'agresseurs, qui sont des gens qui, en général, ont des niveaux de qualification assez moyens, voire plutôt faibles, avec des emplois d'employés, le plus souvent, ou des étudiants, avec souvent dans les expertises des failles narcissiques importantes, des personnes qui ont pu être victimes ou qui ont besoin du groupe. Besoin du collectif, besoin d'être rassuré. On trouve beaucoup chez les militants les plus actifs, des personnes qui cherchent à se rasséréner, à trouver une identité, des gens souvent déterminés et qui revendiquent assez peu. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui sont extrêmement militants, très déterminés, qui peuvent avoir des actes très très durs dans la vraie vie, mais qui viennent devant les tribunaux correctionnels, assez penauds, très repentant, avec zéro revendication devant les tribunaux correctionnels, ce qui c'est toujours assez abusant, si j'ose le mot.
Lâche ?
C'est une forme de lâcheté, j'ai eu l'occasion de leur dire un certain nombre de fois.
Et quand on perquisitionne, puisque cette fois-ci, il y a eu perquisition chez cette prévenue, qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce qu'on découvre quand on ouvre aussi leur téléphone portable, quand ils n'ont pas su les protéger, qu'est-ce qui les apparente ?
Bon, on trouve souvent dans les domiciles des drapeaux, parfois des drapeaux nazis. On trouve du matériel de propagande. On trouve des affichettes, des autocollants. À Lyon, beaucoup guignolent avec une batte de baseball. Vous voyez, c'est ce type d'autocollants qu'on trouve. Puis on trouve des armes, on trouve des couteaux, on trouve des poings américains. On trouve des battes de baseball, on trouve parfois des armes à feu, mais assez peu, tout un matériel. Et puis, dans les téléphones, on trouve souvent des messages entre les uns et les autres, puisque à Lyon notamment, l'extrême droite est très bien organisée sous forme de réseau et est capable de mobiliser un certain nombre de personnes pour tel ou tel événement en quelques dizaines de minutes, s'il y a matière à faire coup de poing.
Et on a pu mettre à jour qu'en fait, ce sont des gens qui étaient directement sous l'influence des chefs d'extrême droite français, hein, donc de Bardella, de Marine Le Pen, de F. de Souche, etc., qui avaient dit qu'il n'était pas possible de laisser les supporters algériens déambuler dans les rues pour fêter les victoires de l'Algérie, que c'était un affront à la France. Ils avaient donc multiplié les communiqués pour dire interdiction des drapeaux algériens dans les centres-villes et qu'il fallait absolument les neutraliser. Quelque part, le message, c'était « Allez-y, les commandos d'extrême droite, allez-y, allez leur arracher leurs drapeaux ». Et c'est ce qu'ils ont fait.
Vous vous rappelez même toutes les phrases, les tweets envoyés par Bardella, Le Pen, Odoul. Vous rappelez même que Brigitte Bardot avait dit que c'était une honte nationale, ce 14 juillet devenu algérien. Ça fait partie de la stratégie de la Maison des Potes de ne pas isoler ses actions.
Alors, Il y a un enjeu toujours de démontrer la responsabilité des chefs politiques d'extrême droite dans la radicalisation de leurs jeunes extrémistes. Nous, on cherche toujours à démontrer que derrière la personne qui commet une attaque d'un commando d'extrême droite, il y a des chefs politiques. Et ces chefs politiques devraient être aussi l'objet des enquêtes et des poursuites judiciaires. Et souvent, on vous dit, mais vous n'avez pas établi qu'il y avait une exhortation explicite à commettre des violences. Sauf que là, on établit que derrière les propos de Odoul et de Le Pen et de Bardella qui disent « c'est pas possible que le 14 juillet, il y ait des drapeaux algériens dans les rues », eh bien, il y a des personnes qui leur obéissent et qui ont dit « ok, on va les fracasser à coups de batte de baseball, celui qui porte un drapeau algérien ». Et donc, il y a bien un lien entre la directive politique, extrêmement médiatisée, extrêmement partagée sur les réseaux sociaux, et le fait que celui qui va être abonné à la chaîne F de Souche sur X, eh bien, va recevoir le message. Et donc, finalement, la police va les interpeller en janvier, donc 6 mois après. Les signalements, les photos, les caméras de surveillance, le bornage des téléphones vont faire qu'ils vont réussir à remonter au point de départ, au café. Et là, ils vont avoir donc des images de qualité, alors que celles de la rue ne permettent pas d'identifier correctement les gens. Mais en tout cas, c'est possible de mener une enquête sérieuse, à condition d'y mettre la police scientifique. Il faut mettre des compétences dans ces affaires-là. Et ça, c'était de la responsabilité du procureur qui a pris cette affaire au sérieux. Et ils ont fait du très bon travail dans ce dossier.
Sur le traitement policier, à votre avis, maître Bertrand Sahine, est-ce qu'il y a eu une volonté de la part des autorités de faire que cette affaire ne passe pas en dessous des radars, ce que l'on peut parfois reprocher?
Cette affaire ne pouvait pas passer sous les radars. Je pense que le mode d'action des personnes qui seront pour certaines déclarées coupables était d'une telle évidence, à ciel ouvert, tellement scandaleuse, avec tellement de victimes, sous les caméras de l'hypercentre qui est extrêmement protégé de ce point de vue-là. Les services de police avaient naturellement, j'allais dire, le matériel. Mais le travail d'enquête était un travail d'enquête, il faut le dire, tout à fait satisfaisant et sérieux. Et on avait les développements de toute cette action. On avait les victimes qui étaient tout entendues. Les peines prononcées ont été des peines importantes hein, pour certains, puisqu'on a eu des peines jusqu'à 4 ans d'emprisonnement. La difficulté qu'on peut peut-être relever, c'est le temps que cette instruction a nécessité. On a une justice qui est débordée et le temps judiciaire est un temps maintenant terriblement ralenti, qui fait qu'arrivé à l'audience, beaucoup de temps, plusieurs années se sont passées. Le débat maintenant qui se pose devant tous les tribunaux correctionnels, c'est que faire de prévenus qui sont coupables, voire de faits graves, mais qui ont commis ces faits depuis longtemps et qui auront l'intelligence de ne pas en commettre depuis. Après, sur la question de savoir si d'autres dossiers auraient pu être poursuivis, ils ne l'ont pas été. Il est difficile de ma place d'avocat d'incriminer le parquet de Lyon de vouloir taire un certain nombre de dossiers. Ce qui est certain, c'est qu'on a le sentiment qu'effectivement, il y a beaucoup plus d'affaires qui sont commises que d'affaires qui sont poursuivies en toute hypothèse. Je dirais de ma propre expérience, pour avoir travaillé 20 ans dans des dossiers où j'ai pu me constituer partie civile pour un certain nombre de personnes contre les réseaux d'extrême droite, il y a beaucoup plus de militants de gauche et d'extrême gauche qui sont victimes qu'auteurs. C'est manifeste. Et cela me fait dire que les réseaux de gauche, de surveillance des réseaux d'extrême droite, sont souvent plus en réaction, en surveillance, essayent de contenir, s'affrontent parfois, il faut bien le dire, mais sont quand même dans une forme de retenue. Alors que les réseaux d'extrême droite sont dans une vue beaucoup plus propagandiste, d'expansion territoriale, hein, je pense notamment au quartier Saint-Jean, et d'affirmation de leurs idées politiques, avec une politique d'expansion sur les réseaux sociaux, et qui leur permet de recruter beaucoup.
Saint-Paul, dans le vieux Lyon, 5e arrondissement, escalier de la montée du change. Première étape de notre radiographie de l'extrême droite à Lyon. J'ai rendez-vous avec Marie Alénou, dans ce quartier historique qui a été longtemps le bastion des nervis fascistes, avec l'implantation de bases arrières, de salles de boxe et de bars, comme la fameuse Traboule, ce lieu associatif baptisé Maison de l'identité lyonnaise, un sombre endroit dit enraciné, communautaire et patriote. Je retrouve Marie Alénou, qui, à rue 89 Lyon, est en charge de suivre l'extrême droite. Marie Alénou, quand vous décidez de devenir un peu la spécialiste des dossiers qui sont sur l'extrême droite, vous découvrez au départ quelle réalité?
Donc moi j'arrive à rue 89 Lyon en 2022. À ce moment-là, il y a un journaliste qui enquête depuis longtemps sur l'extrême droite qui est Laurent Burlet à rue 89 Lyon. Il veut passer le flambeau parce que c'est un travail assez éreintant et qui comporte aussi des risques. Il a été menacé à plusieurs reprises, donc il veut passer le flambeau sur ce sujet-là. Moi je suis volontaire, je suis déterminée à enquêter sur l'extrême droite. Bon, j'avais commencé à travailler un peu sur le sujet, mais je découvre que l'extrême droite radicale, donc celle qui n'est pas électorale, c'est en réalité plusieurs groupes, plusieurs mouvances qui se recomposent, qui sont difficiles à appréhender parce qu'en fait c'est très poreux entre les différents groupes, c'est poreux aussi avec l'extrême droite électorale. Et donc pour vraiment bien comprendre ces milieux-là, ça nécessite vraiment de se plonger dans leurs idées, de ne pas avoir... un frein au départ où on peut se dire c'est des racistes, c'est des nationalistes, ils sont bêtes, ils sont bas du front. On peut s'opposer à leurs idées, mais il faut chercher à comprendre quels sont leurs systèmes de pensée, quels sont leurs systèmes d'organisation pour pouvoir enquêter sur eux.
Qu'est-ce qu'il faut faire comprendre de cette mouvance protéiforme?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que Lyon, ça a été vraiment leur base arrière pendant de longues années. À la fois les mouvements identitaires, à la fois les mouvements nationalistes, à la fois l'extrême droite intellectuelle à Lyon 3 se sont servis de Lyon pour répandre leurs idées en France. Aujourd'hui, Lyon n'est plus cette base arrière, mais l'a été pendant longtemps. Et rue 89 Lyon a documenté pendant toutes ces années en fait la conséquence très concrète d'avoir ces mouvements implantés dans notre ville. Ça veut dire des agressions de militants pour les personnes migrantes, c'est l'agression de personnes racisées en pleine rue, de personnes homosexuelles, transgenres, etc.
Et vous recensez que 70% des 102 actions imputées et imputables à l'extrême droite ici à Lyon depuis 15 ans n'ont pas vu d'enquête policière permettant de les éluder.
Alors, ce qui est plutôt rassurant dans l'étude qu'on a faite, c'est que quand il y a vraiment des blessés plutôt graves, là on a des condamnations, on voit que les pouvoirs publics se mobilisent, notamment sur la dernière attaque en date violente de 2023 sur la Maison des Passages, où il y avait une conférence sur la Palestine qui se tenait. On a eu une quarantaine de nervis qui sont venus intimider les personnes à l'intérieur de la salle, mais qui s'en sont pris aussi à des personnes à l'extérieur. On a eu 3 blessés graves, dont un qui a eu 45 jours d'ITT. Là-dessus, il y a eu une grosse mobilisation des forces de l'ordre, de la préfecture, mais aussi la sous-direction antiterroriste qui a été saisie. Auparavant, on a eu plusieurs attaques qui ont fait des blessés graves qui ont aussi eu des condamnations. Mais c'est vrai que sur les actes d'intimidation du quotidien, sur des lieux, sur des militants, sur des personnes racisées dans la rue, on s'est rendu compte que voilà, il n'y avait pas vraiment de prise au sérieux de ces petites intimidations quotidiennes. Alors je dis petites, mais pour les personnes qui les subissent, ça peut rester traumatisant. Et qui a créé en fait cette forme d'impunité pour l'extrême droite, qui s'est dit moi si je peux intimider dans la rue et que on vient pas me chercher, je continue.
À Lyon, on a eu et on a encore une extrême droite.
Mohamed Chihi, adjoint à la sécurité de la mairie de Lyon.
Il y a eu un certain nombre de dissolutions prononcées, mais une extrême droite nazie pour certains, l'extrême droite pour d'autres, avec un pan plus identitaire. Et puis à l'université, on a un historique à l'université avec des personnages comme Gollnisch, avec un certain nombre de mouvements révisionnistes. Et puis on a le GUD aussi. Donc on a eu tout un corpus de militants d'extrême droite et des gens qui se sont beaucoup installés, encore une fois, dans l'hypercentre de Lyon, mais plutôt sur la la partie Saint-Jean, avec des ouvertures de locaux, avec une politique d'installation et de domination territoriale, avec des agressions d'un certain nombre de militants reconnus comme tels ou assimilés à des militants de gauche ou d'extrême gauche qui ont été agressés parce que supposés interdits de ce territoire. Il y a eu aussi des agressions dans divers lieux culturels, la MJC du Vieux-Lyon, la Maison des Passages à Saint-Georges. Donc il y a eu l'horloger de Saint-Paul, donc des restaurants turcs. Donc il y a eu comme ça une politique territoriale d'installation. Et puis des attaques récurrentes d'un certain nombre de manifestations, alors manifestations de gauche, manifestations LGBT, enfin tous ces militants qui évidemment sont tout à fait des cibles pour les réseaux d'extrême droite.
Parfois ils vont faire des tractages, donc là ils vont venir tous habillés avec la même veste, visage découvert. Ils vont faire des manifestations, alors là ils vont peut-être être un peu plus cagoulés, ils vont venir avec une banderole, des fumigènes, ils vont coller quelques affiches, quelques stickers. Et puis on a les actions violentes où là ils n'affichent pas de signes de leur appartenance à un groupe. Ils se réunissent habillés tout de noir, cagoulés, ils viennent parfois avec des bâtons, avec des béquilles, et ils parcourent les rues, soit ils ont une cible précise, un lieu, une manifestation, un événement, un groupe de militants, soit ils vont taper pour en fait un peu semer la terreur, ou en tout cas affirmer que Lyon est leur territoire.
Un marquage territorial qui dépasse le cadre du Vieux-Lyon.
Nous, dans le recensement qu'on a pu faire entre 2010 et aujourd'hui, on a identifié deux lieux principalement ciblés par l'extrême droite. À la fois le Vieux-Lyon, qui est là où ils étaient implantés, donc ils s'en sont pris à leurs voisins, à des commerçants, à des habitants du Vieux-Lyon.
À la librairie, qui est la librairie libertaire.
Alors non, c'est pas dans le Vieux-Lyon, ça. La librairie, justement, c'est dans le deuxième lieu qu'on a identifié, les Pentes de la Croix-Rousse, qui est connu pour être un lieu, en fait, très investi par les idées libertaires, qui est habité plutôt par une population de gauche, qui a longtemps été moteur dans le militantisme de gauche à Lyon, et où on a justement des librairies, des bars, qui étaient clairement affichés libertaires, et qui ont été des cibles pour l'extrême droite. Et encore ces dernières années, très récemment, en 2024 par exemple, lors des législatives, les groupuscules d'extrême droite sont venus faire une démonstration de force dans les Pentes de la Croix-Rousse. Ils ont défilé, ils ont un peu intimidé des personnes sur les terrasses de café.
Mohamed Chi. On revient avec vous sur l'engagement de la mairie de Lyon et de son maire écologiste Grégory Doucet, élu en 2020. Vous êtes son adjoint, chargé de la sécurité.
Quand on prend nos fonctions, moi j'arrive notamment après cet épisode de la Cannes 2019 qui me choque. Là, il fallait passer un autre cap. Et la décision que nous prenons, la décision que je prends, c'est de faire un travail de documentation et d'article 40 pour tous les méfaits que nous connaissons à Lyon.
On rappelle l'utilité de l'article 40 ?
L'article 40 du Code de procédure pénale, c'est un article qui oblige toute personne, tout élu, à déclarer des délits ou des crimes dont il aurait connaissance. Ça permet à ce moment-là d'alerter l'autorité judiciaire.
Ainsi naît au sein de la mairie, sous votre égide, Mohamed Chi, une sorte de cellule de veille.
Alors il y a une cellule de veille qui est réunie très régulièrement. J'accueille à l'hôtel de ville des structures qui luttent contre les locaux de l'extrême droite. On se rejoint là-dessus parce que nous sommes d'accord sur l'analyse. Ces locaux, cette organisation est inacceptable pour Lyon et nous devons travailler ensemble pour réussir à fermer ces locaux parce que c'est un élément essentiel de leur organisation sur notre territoire. Et on collecte à ce moment-là pas mal d'informations, de les partager avec les autres autorités, police nationale, préfecture, autorité judiciaire, et on avance comme ça. Là où on rencontre une difficulté, c'est qu'on n'établit pas nécessairement tout de suite le lien entre les différentes violences qu'on a dans la ville avec les locaux d'extrême droite. On ne fait pas de lien direct avec ni la Trabouille ni la Gaugée.
Et la Gaugée, c'est la salle de sport, la salle de boxe.
Tenante à la Trabouille, donc on continue à avoir une vigilance plus. Et on arrive à un moment particulier qui est celui de l'attaque de la Maison des Passages lors d'une conférence sur la Palestine. Et le soir même a lieu une agression de jeunes étudiants étrangers. Et on fait un lien direct entre une personne qui était présente à la Traboule et l'agression de cette jeune fille étudiante. Et ça nous permet de faire un lien et de documenter suffisamment pour nous offrir la possibilité de la fermeture des locaux et la dissolution de Génération Identitaire dans un premier temps. Tout de suite après, est reconstitué les remparts.
Ça pose la question de leur capacité de réorganisation et d'occuper le terrain.
De toute façon, il faut partir d'un principe, c'est qu'ils ont le vent en poupe. Ils continueront, ils réussiront de toute façon à se reconstituer systématiquement. Il faut partir de ce principe-là. On est dans un contexte politique qui fait que leur présence n'est plus tant questionnée que ça.
Comme s'il s'agissait d'un bras armé.
D'un bras armé qui se pense l'arme de ses pensées d'extrême droite, qui se croit en guerre contre tout ce qui menacerait l'identité française. Et il y a en tout cas l'idée chez beaucoup d'entre eux que la lutte pour leur identité passe par la violence. Il faut que nous, les démocrates, nous organisions, acceptions de mettre certaines de nos querelles de côté et que nous continuions à lutter contre ces mouvements politiques qui ne nous promènent que haine et souffrance.
Il ressemble à quoi, ce local, cette maison qui abrite la Traboule, ce qu'était la Traboule? C'est un bâtiment renaissance, absolument comme les autres, magnifique.
Oui, alors la particularité de ce local, c'est qu'il se situe aussi dans des escaliers. Là, le logo a disparu, mais auparavant, il était surmonté d'une petite affiche qui comportait le logo de la Traboule, le logo des remparts. En fait, c'est à la fois un bar, c'est un lieu où ils pouvaient organiser des formations, des conférences privées pour leurs militants, et c'est également une salle de boxe où ils se réunissaient plusieurs fois par semaine pour s'entraîner au sport de combat. Ils avaient choisi d'utiliser l'histoire de ce cœur moyenâgeux, renaissance, enfin plein d'histoires à Lyon pour dire voilà, nous on est les vrais Lyonnais ancrés dans ce qui était le cœur de Lyon. Leur logo, ils utilisent les symboles de la ville, par exemple les remparts utilisaient le lion de Lyon pour leur logo. Ils avaient vraiment dit c'est notre quartier. Donc là, il y avait ces locaux-là, mais dans le Vieux-Lyon, il y en a eu plein d'autres, des bars, des locaux aussi ouverts par la mouvance plutôt nationaliste, Passion sociale, etc. Et n'est resté au fil des ans que les locaux des identitaires qui étaient un peu plus officiels, et je pense qu'ils bénéficiaient aussi de la bienveillance de leurs propriétaires. Et enfin, en 2024, ces locaux ont été fermés.
Marie, je me mets un peu plus haut que la porte bleue de la Traboule qui tout à l'heure, alors que je l'imaginais fermée, figure-toi qu'elle s'est ouverte. Et quand j'ai demandé si c'était bien ici la Traboule, d'une manière suspicieuse, ils m'ont répondu que c'était fermé depuis 2 ans et que c'était en voie d'être repris.
Oui, on sait qu'il y a des allées et venues qui sont régulières dans les locaux de la Traboule depuis que c'est fermé, c'est-à-dire depuis mi-2024. La procédure de dissolution des remparts et des associations qui administraient les locaux des identitaires à Lyon. Mais on se doute qu'ils n'ont pas vraiment désinvesti ces locaux qui étaient cruciaux pour eux, qui étaient leur QG. Et donc, on sait qu'il y a encore des allées et venues. On ne sait pas trop ce qui se trame, mais c'est pas totalement désinvesti.
On a rendez-vous là, Marielle et nous, avec une figure qui n'a eu de cesse de lutter, que tout le monde connaît ici par son nom, l'horloger de Saint-Paul. Saint-Paul, c'est ce quartier. Saint-Paul, l'horloger, c'était le film de Tavernier.
Alors, Philippe Carry, c'est donc l'horloger de Saint-Paul et il a la particularité d'habiter à quelques centaines, même dizaines de mètres du local des identitaires. Lui, c'est un commerçant humaniste et qui a vu d'un très mauvais œil l'arrivée des identitaires. puisqu'il a déjà été la cible de ces mouvements-là, puisqu'il a pris position contre leur présence. Et oui, ça a été une figure de la résistance contre l'extrême droite à Lyon.
On va voir Philippe. Philippe Carrie, rue Juivry, en bas de ses marches, une des plus vieilles rues du vieux Lyon.
Première chose que les identitaires ont fait lorsqu'ils sont arrivés, au bout de quelques jours, ils ont profané les plaques de la rue Juivry parce que c'était marqué Juivry dessus, avec des slogans antisémites.
Philippe Carrie, pour s'abriter des vents mauvais qui soufflent dans cette rue Juivry où se trouve votre horlogerie, abritons-nous et rentrons à l'intérieur. Je vous suis.
Très bien. On va remonter le temps, quelque sorte, en poussant cette porte, parce que nous verrons notamment une allée. On dit les allées à Lyon, on ne dit pas les couloirs. On dit les traboules, on ne dit pas les cours.
On dit les montées, comme celle de la montée de la loge qui est juste là et qui abritait ce local qui était vos voisins. La traboule.
Alors le terme de traboule a été repris par les identitaires pour désigner juste un local pour réunir des gens qui n'ont pas l'esprit de l'histoire puisqu'ils ne la connaissent pas et ils la détournent. Comme par exemple de récupérer les symboles de l'histoire de Lyon, comme Guignol, Antoine de Saint-Exupéry, jusqu'à Paul Bocuse. Tout est bon pour les identitaires et les nationalistes à Lyon pour récupérer les symboles de son histoire, pour dire que ça, c'est la vraie France. Et nous, les habitants, nous, les artisans, nous sommes battus pour qu'ils ne détournent pas cette histoire. Et que finalement, ils n'ont pas pu rester. C'est à partir du moment où j'ai été agressé, physiquement, moralement, par les groupuscules d'extrême droite dans le Vieux-Lyon, que je me suis engagé.
Remontons le temps. Sur ce jour funeste, qu'est-ce qui s'est passé?
Si vous voulez, ils se sont installés petit à petit depuis les années 2000. Donc, que j'ai tout archivé.
Ah, première photo que vous venez d'exhumer.
En fait, lorsque j'ai été pris pour cible par les groupes nationalistes en 2017, en septembre 2017, le 23 exactement, en pleine nuit, à 3h du matin, ils n'ont pas pu rentrer chez moi, parce que je pense qu'ils voulaient d'abord s'en prendre à ma personne. Ils s'en sont pris à la vitrine. Et à coups de marteau, ils ont complètement défoncé ce qui est, pour un artisan, son outil de travail, son atelier. Donc la vitre avec 12 coups, comme les 12 coups du cadran d'une horloge. Et quand j'ai vu ça le lendemain, j'ai eu une idée qui consistait à mettre des cadrans sur chacun des impacts, pour transformer cette violence destructrice en vision positive et créative. Parce que transformer cette violence, pour moi, c'était très important psychologiquement, et je l'ai fait dès le lendemain matin. C'était envoyer un message que je ne subissais pas, que je n'avais pas peur, parce que même si vous avez peur, il ne faut pas le montrer, il ne faut jamais le montrer. Sinon, vous avez tout perdu. C'est-à-dire que ensuite, les personnes, ce genre de personnes, feront tout pour vous achever. Et comme j'ai transformé cette violence en écrivant des textes poétiques, en les récitant dans la rue, en créant un festival des initiatives artistiques dans le quartier, pour réunir tout le monde autour du message d'un vieux lion qui refusait cette mainmise de l'extrême droite sur son histoire et son patrimoine. Et ce qui est très important, c'est qu'on ait aussi toujours eu, dans ce combat, des habitants, des collectifs, des acteurs culturels, comme la MJC, comme la Maison des Passages, qui ont été agressés un grand nombre de fois aussi. Hein. Je pense au collectif de Vigilance 69, qui est devenu l'association Fermer les locaux fascistes, qui a eu une très grande importance en faisant des listes de faits et de violences qui ont ensuite été transmises à la préfecture, au ministère, pour demander la dissolution de ces groupuscules. S'il n'y avait pas eu ce travail-là, avec ces associations vraiment antifascistes, je pense que nous-mêmes, les habitants, qui n'étions pas formés dans le combat, n'aurions pas réussi.
Il y a aussi, historiquement, ceux qui luttent et qui sont organisés, qui sont dans le mouvement Antifa. D'ailleurs, quand on sillonne ce vieux Lyon, c'est plutôt leurs graffitis qui apparaissent.
Oui, alors si Lyon a connu son lot de groupuscules d'extrême droite, elle a aussi connu une forme de résistance antifasciste assez vive, qui a pris des formes diverses. On a des groupes antifascistes, plutôt de la mouvance libertaire, autonome, qui sont nés à Lyon autour des années 2013, suite à la mort de Clément Méric, ce militant antifasciste tué par des militants d'extrême droite à Paris. Donc c'est le GAL, le groupe antifasciste Lyon et environ, qui a existé donc de 2013 environ à 2023, puisqu'ils ont été dissous par le gouvernement à ce moment-là. Et puis, au tournant des années 2018, on a vu la jeune garde naître, qui se voulait un peu plus en lien avec les syndicats, avec les partis politiques, avec aussi une mission sur les plateaux télé, dans les médias. Ils avaient nommé des porte-paroles, notamment Raphaël Arnaud.
Qui est aujourd'hui député Vaucluse, du Vaucluse pour LFI.
Tout à fait, et qui a longtemps été le porte-parole de la jeune garde à Lyon. Et puis on a un antifascisme aussi qui était, on va dire, plutôt associatif, plutôt de collectif, qui était aussi syndicaliste dans l'éducation, militant écologiste, qui se revendiquait aussi de l'antifascisme face à la menace que représentait l'extrême droite à Lyon et qui se sont justement liés à plusieurs fois dans des groupes de collectifs, donc qui a été le collectif Vigilance contre l'extrême droite jusqu'environ 2015, et ensuite qui a ressurgi autour aussi des années 2018 avec la création de la Jeune Garde, qui a fédéré, refédéré en fait plein d'associations, de syndicats, de partis pour créer Fermons les locaux fascistes.
Zinedine Messaoudi, on va évoquer ensemble ici sur les hauteurs de la Croix-Rousse, haut lieu emblématique, cette colline de Lyon, des luttes antérieures. On va pas évoquer la révolte des canuts lyonnais en 1831, mais quoi que ça a forgé les esprits. Et puis ici souffle un vent libertaire. Il y a derrière nous une librairie, La Plume Noire.
Qui a été attaquée à diverses reprises par les militants d'extrême droite, hein. On peut voir des vidéos d'ailleurs sur internet très violentes, avec des barres en fer, avec des méthodes d'organisation et de structuration interne, politique, pour mener des agressions.
C'est un modus operandi assez classique, non ?
Oui, c'est sûr. Après, ce qui vraiment a réussi à structurer ce mouvement fasciste à Lyon, c'est notamment ces locaux avec lesquels ils arrivaient à se réunir, à projeter des agressions, à ranger du matériel militant. Et c'est vraiment ce vivier-là, de divers bars associatifs avec lesquels ils arrivaient à s'organiser. C'est vraiment par là que cette lutte fasciste s'organisait à échelle de la ville, quoi. Le quotidien des gens, et même des militants progressistes, militants de gauche, était insupportable. C'est-à-dire que chaque mouvement social était attaqué, et ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait plus concevoir. Et c'est pour ça que le but dans la création de la Jeune Garde, c'est d'abord de combattre l'extrême droite dans la rue, par des méthodes physiques, parce qu'on était contraints à ça. Mais le plus important, c'était aussi la construction politique qu'il y avait derrière. De montrer, médiatiquement, sur les réseaux sociaux, ce qui se passait réellement dans cette ville. Le but, c'était vraiment de réunir tout le monde autour de la table et dire « Bah là, aujourd'hui, il y a un problème, c'est l'extrême droite, qu'est-ce qu'on fait ensemble ?» C'était vraiment d'ouvrir l'antifascisme de manière générale à un maximum de personnes, quoi. Et que les militants d'extrême droite, aujourd'hui, ne prospèrent pas autant sur la ville comme ils ont pu prospérer à l'époque, il y a quelques années. Et ça a été un travail sans relâche, un travail réfléchi, et qu'aujourd'hui, on le voit, la Jeune Garde est visée par une procédure de dissolution. Force est de constater que le contexte national a poussé le ministre Retailleau à céder face à l'extrême droite. Évidemment, c'est son agenda politique. C'est tout un lexique qu'utilisait le ministre Retailleau, d'ultra-gauche, d'essayer de rendre la gauche comme réellement le camp qui ferait peur, parfois même le camp antisémite et raciste. Non mais faut pas déconner là. Alors qu'en face, on a des groupes comme Lyon Populaire, des groupes néo-nazis qui se le revendiquent ouvertement. Un vivier de groupes dans la ville qui font que l'extrême droite arrive toujours à se maintenir, comme les supporters de l'Olympique Lyonnais, toute proportion gardée, sans vraiment mêler tout le monde à l'intérieur. Mais on a eu toujours, surtout du côté du virage sud, des organisations comme la Mezza Lyon à l'époque, qui avait notamment comme logo un Totenkopf, donc un crâne que les Waffen-SS utilisaient à l'époque comme logo, Totenkopf, qui caractérisait ce groupe de supporters comme un groupe politique d'extrême droite. Et d'ailleurs, c'est par ce biais-là que les militants néo-nazis arrivaient à recruter des gens dans la rue pour aller mener des agressions.
Marie-Hélène, ce combat citoyen, aujourd'hui, il est en train de gagner.
Je pourrais même dire qu'il l'a gagné, puisque le groupe constitué en 2018 qui s'appelle Fermons les locaux fascistes, donc avec un objectif très clair affiché dans le nom, a réussi son pari, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de locaux d'extrême droite publics ouverts à Lyon. Il y a toujours l'Action française qui a un local qui n'est pas ouvert au public comme pouvait l'être la Traboule. Donc je dirais qu'ils ont plutôt gagné leur pari, oui.
Puis on ne ferme pas une église comme Saint-Georges à Lyon qui les réunit tous en faisant des messes un peu intégristes.
Oui, alors le cas Saint-Georges est intéressant parce que ce n'est pas directement l'église qui ouvre un lieu pour l'extrême droite. Par contre, on voit que parmi les fidèles de cette église, il y a des militants qui ont été épinglés dans plusieurs affaires de violence. On voit qu'ils peuvent utiliser une salle de cette paroisse pour organiser des réunions. L'abbé de cette église lui-même porte des combats qu'on pourrait qualifier de réactionnaires, contre l'avortement notamment. Donc oui, le milieu religieux à Lyon, en particulier l'église Saint-Georges, a été un lieu de regroupement de certains de ces militants catholiques.
On sait aussi qu'il y a une droite traditionnelle qui est très présente, un esprit de corps aussi et d'entre-soi.
Alors c'est toujours difficile de tirer les fils entre peut-être une bourgeoisie ou une aristocratie réactionnaire et des groupuscules de terrain. Ce qu'on sait, c'est que lors des mouvements de la Manif pour tous, donc autour des années 2013, Lyon a été une ville très active. Et on a vu à ce moment-là une espèce de synergie entre ces mouvements réactionnaires et les mouvements, les groupuscules d'extrême droite qui portaient les mêmes combats, donc contre le mariage homosexuel, qui se retrouvaient à faire les services d'ordre ou en tout cas à graviter autour des manifestations organisées par la Manif pour tous. Et ce que nous, on a pu montrer, en tout cas, c'est qu'à Lyon, il y a des réseaux catholiques et conservateurs qui, par exemple, sont regroupés au sein du réseau Vie, donc c'est un réseau qui lutte contre l'avortement, contre aussi la loi fin de vie sur l'euthanasie, et qui est financé en fait par tout un tas de petits patrons locaux qui payent de la pub dans un manuel de ce réseau Vie pour le faire vivre, pour éditer un manuel sur les lieux anti-avortement à Lyon.
Marie Alénou, à l'horizon des municipales de mars prochain dans cette ville, est-ce que cette présence de l'extrême droite et la façon de lutter contre est un sujet? Et je fais un peu peut-être appel à vous pour nous brosser le portrait de cette carte électorale lyonnaise qui voit arriver un vieux habitué de cette métropole, puisque c'était l'ancien président de l'Olympique lyonnais. Mais est-ce qu'il y a, il y a un sujet?
Alors, depuis le début de la campagne des municipales, on n'a pas entendu parler une seule fois d'extrême droite par les candidats. Ça s'explique notamment parce que depuis les dissolutions consécutives qui ont eu lieu en 2024 des Remparts et de Lyon Populaire en 2025, la problématique de la violence de l'extrême droite à Lyon est quand même beaucoup plus faible. Les différents candidats qu'on a à Lyon, il y a Grégory Doucet, donc le maire écologiste sortant, qui se représente. Lui, avec son équipe municipale, ont essayé depuis 2020 déjà de recenser les actions, de les faire remonter aux procureurs. Donc eux ont mené une action résolue, alors qui a toujours été jugée insuffisante, pas sur leur gauche, mais voilà, on peut dire qu'ils ont quand même agi. La majorité précédente, sous Gérard Collomb, alors on était sur une action dans l'ombre par les adjoints. Gérard Collomb ne voulait pas trop en parler. On a eu un député quand même de la circonscription, Thomas Rudigoz, donc Renaissance, qui a aussi beaucoup fait du lobbying auprès du ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour les dissolutions. Aujourd'hui, il soutient donc Jean-Michel Aulas, qui est l'ancien président de l'Olympique lyonnais, qui a revendu le club en 2023 et qui... au fil des mois, s'est constitué comme en fait le principal adversaire de Grégory Doucet. Et Jean-Michel Aulas, on a pu lui reprocher tout au long de ses années à l'OL une certaine, alors je ne sais pas si je dirais complaisance, mais peut-être un œil fermé sur des agissements qu'il pouvait y avoir dans ses tribunes, des saluts nazis, des banderoles qui ont pu être affichées contre les migrants, par exemple. Voilà, il y a d'insultes racistes aussi proférées dans les tribunes. Les hooligans, ceux du stade, ne sont pas forcément des militants. C'est pas eux qu'on va retrouver en train de tracter sur des marchés. Par contre, s'il faut venir donner un coup de main pendant une action coup de poing, là, le stade vient renforcer les rangs de l'extrême droite à Lyon. Et plus récemment, je crois que c'est Libération qui a sorti un article montrant Jean-Michel Aulas qui serrait la main de supporters de la Mezza. Donc la Mezza, c'est un groupe de supporters identitaires. C'est difficile à croire que Jean-Michel Aulas ne savait pas qui ils étaient.
Il y a un bastion idéologique, politique à Lyon de l'extrême droite, c'est un fait. Et il continue à vivre aujourd'hui, il n'a jamais cessé d'exister, il ne cessera pas d'exister non plus.
Ça nous rappelle une chose, c'est qu'on n'est jamais à l'abri. Même si aujourd'hui, oui, avec le travail politique qu'on a mené, les fascistes ne règnent pas autant la terreur qu'avant, enfin, il ne faut pas lâcher, quoi.
Pagaille, à Lyon, va des rétro, les fachos, épisode 21, fin. Remerciements chaleureux à Samuel Thomas, président de la Maison des Potes, et son équipe infatigable combattant contre toutes les discriminations, véritable vigie citoyenne et aide juridictionnelle essentielle sur des dossiers ayant trait au racisme sous toutes ses formes. Merci à maître Michael Momadjian, avocat au barreau de Paris. Merci à Marie Alénou et toute l'équipe de Rue 89 qui vient de publier un dossier très complet, consultable sur leur site www.rue89lyon et baptisé 15 ans d'impunité de l'extrême droite à Lyon. C'est à la rubrique Enquête extrême droite. Vous pouvez bien sûr consulter les investigations dans la région Rhône-Alpes et partout en France. Pour nous, un blast de Thierry Vincent qui lutte contre les mêmes envahisseurs. Remerciements aussi à Fouad Sarraï, rencontré à Radio Bellevue, à Lyon, dit Tahiti Bar, et à Mohamed Braïki, de la LICRA, pour ses conseils précieux. Rue 89, comme Street Press, et l'ensemble du réseau de la PPP, la presse pas pareille, indépendante, a besoin d'être soutenu dans leur travail. Pagaille est un podcast produit par Blast que vous pouvez liker et partager. N'hésitez pas à vous y abonner, c'est gratuit. Cette collection de podcasts documentaires uniques dans le paysage audiophonique de la presse indépendante est bien sûr présent sur notre site remodelé et sur toutes les plateformes de podcasts et un jour peut-être sur notre chaîne YouTube. Pagaille, une enquête proposée par Alexandre Hérault, réalisée, c'est-à-dire montée, pensée et mixée par Vincent Deck.
Une création. Blast!